Art Story, une histoire, une œuvre d'art. Cette semaine, Auguste Rodin, vu par Octave Mirbeau, dans un des écrits sur l'art publiés par le journaliste-écrivain dans Le Figaro du 4 juin 1895. Mirbeau admire et défend Rodin. Écoutons-le. Demain, à Calais, sera inauguré ce fameux groupe des bourgeois de Calais, dont nous avons revu cette année au Champ de Mars une des principales figures dans sa matière définitive, le bronze. Pour donner une idée de cette beauté d'art, grandie encore par une admirable vision d'histoire, il me faudrait de longues pages, car tout est à étudier, à retenir en cette œuvre puissante, la plus belle, la plus complètement belle de la sculpture française, et l'originale simplicité de la composition, et la vie si intense qu'elle exprime, et la majesté tragique qui l'enveloppe, comme d'une atmosphère de terreur, et surtout la maîtrise d'un métier dont M. Auguste Rodin est peut-être le seul aujourd'hui à connaître les perfections les plus secrètes. Sur la place publique de la ville vaincue, affamée et sans armes, les six bourgeois ont délibéré. Pour sauver la ville de la ruine et leurs concitoyens de la mort, ils ont fait le sacrifice de leur existence et ils vont se livrer au roi d'Angleterre. Le monument de M. Rodin, ce n'est pas autre chose, dans un miracle d'exécution, que l'instant précis de cet héroïsme unanimement accepté par les six bourgeois, mais différemment ressenti, selon la différence des caractères qui agissent en ce drame. Les vieillards, décharnés par les longues privations d'un siège, redressent leur taille en attitude hautaine, presque provocante, ou se résignent noblement. Les jeunes se retournent vers la ville, laissant derrière eux dans un suprême regard le regret de cette vie à peine commencée et dont ils n'ont connu que les joies. Et derrière le groupe, prêt à se mettre en marche, l'on entend réellement le bourdonnement de la foule qui encourage et pleure les acclamations et les adieux. Nulle autre complication, nul souci du groupement scénique. Aucune allégorie, pas un attribut dont se servent les sculpteurs, pauvres d'idées pour exprimer l'illusion de l'idée. Il n'y a que des attitudes, des expressions, des états d'âme. Les bourgeois partent, et le drame vous secoue de la nuque au talon. Il me tarde de voir en sa place choisie ce monument incomparable, car la sculpture de M. Auguste Rodin a ceci de précieux que les contours en étant savamment atmosphérés, elle double de beauté sous le ciel et dans la pleine lumière d'une place publique. J'espère aussi que la municipalité aura consenti au désir de l'artiste qui voulait pour son groupe une plateforme très basse, à peine élevée de quelques pieds au-dessus du sol et semblable par l'absence d'architecture à ces calvaires bretons d'un caractère si étrange et si puissant. Nous le verrons demain. Auguste Rodin est né à Paris en 1840. C'est dire qu'il est aujourd'hui en pleine activité de sa force physique, en plein épanouissement de ses facultés intellectuelles. Très jeune, il entra chez Barry. Mais comme la plupart des maîtres en qui s'agite le monstre créateur, Barry ne savait pas enseigner. Il était d'apparence timide, silencieux et triste. Et la jeunesse aime les gestes hardis, la parole sonore, la joie. Il ne semble pas que ce séjour chez Barry, depuis tant admiré, ait fait sur l'esprit de M. Auguste Rodin une impression autre que celle d'un prodigieux et invincible ennui. Aussi abandonna-t-il très vite cet atelier pour entrer chez Carrière-Belleuse. De chez Carrière-Belleuse, il alla en Belgique. Et là, durant plusieurs années, il paya, talent comptant, l'hospitalité d'un sculpteur belge dont le nom, je pense, est depuis longtemps retourné à l'oubli, qui était chargé de décorer la Bourse de Bruxelles. Au nombre des figures dont se compose cette décoration, celles de Rodin sont facilement reconnaissables à leurs différences. Un œil amoureux de la forme ne s'y trompe pas. Il va vers elle, tout de suite, comme dans une foule d'indifférents, on va vers l'ami aussitôt aperçu. La première figure qu'il envoie au salon, c'est l'âge des reins. Elle est belle. Quelques parties même en sont si admirables que le jury ne peut croire qu'il se trouve devant une œuvre d'art et stupidement conclut à un moulage sur nature. pourtant, s'accuse encore dans l'harmonie du corps, dans le modelé du torse et la levée du bras, du ressouvenir de l'antique. Il n'importe, le jury ne veut pas admettre qu'un statuaire inconnu soit capable d'une telle œuvre. Et puis, aucun parmi ces gens du métier ne sait que le moulage sur nature ne donne qu'un ensemble de chair morte et de lignes affadies. Auguste Rodin n'a pas de peine à se justifier, et l'affaire ébruitée attire l'attention sur son nom. Si les hostilités se montrent aussi des défenseurs. Peu à peu, l'artiste sort de l'ombre où il avait vécu jusque-là. En même temps, le public apprend qu'Auguste Rodin travaille à une porte colossale qui lui a été commandée pour le Palais des Arts Décoratifs. Cette porte, on la décrit même avant que l'artiste en ait fixé la forme et déterminé l'arrangement. Chacun sait que les motifs qui s'y dérouleront lui sont inspirés par l'enfer de Dante. Autour de cette entreprise grandiose se crée une véritable agitation, accrue encore par la connaissance de quelques fragments troublants. Ce qu'il y a de poignant dans les figures de Rodin, ce par quoi elle nous touche si violemment, c'est que nous nous retrouvons en elle. Suivant une belle expression de M. Stéphane Mallarmé, elles sont nos douloureux camarades. Et après cette lecture que je vous ai proposée, je vous invite donc à découvrir l'exposition du centenaire de la mort de Rodin où vous pourrez voir en vrai toutes ces figures sculptées, toutes ces souffrances, toutes ces contorsions et toute cette beauté que raconte Octave Mirbeau. C'était Auguste Rodin, vu par Octave Mirbeau, dans Art Story, une histoire, une œuvre d'art.